Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules, surtout.
Neymar, c'est fini. Va à la Fashion Week. Il y a les championnats de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. C'est bon. Voyage en classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02 et l'after continue jusqu'à minuit et demi après cette soirée de Ligue des Champions. L'after, évidemment, vous le savez, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, minuit 30 lors des soirées de Coupe d'Europe, hier soir, ce soir et demain soir, bien sûr. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Jérôme Rantaine est là avec nous, qui dit PSG, dit Jérôme Rantaine, c'est comme ça. C'est une habitude. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
De retour parmi les tiens.
Voilà, exactement.
Dans ton club formateur.
Tout à fait.
Oh, depuis le hybride mille feux, tous les jours à 18h. Ouais,
j'essaye, en fait, c'est pas facile. Hein.
Non, mais c'est bien, c'est très bien. Bravo.
Merci.
Je te félicite.
Merci.
Parce que c'est bien tous les jours. Il est 23h03. Le PSG donc fait un partout à Benfica. Pour l'instant, on est sur deux soirées sans défaite hein, pour les clubs français en Coupe d'Europe. Il faut quand même le signaler.
C'est
pas tout le temps comme ça. Donc, pour l'instant, on est pas mal. On est sur une semaine qui est pas mal. On verra demain ce que ça donne.
C'est vrai.
Mais il y a beaucoup de choses à dire tout de même sur ce match du PSG à Benfica. On va le faire tout de suite. Et puis ensuite, les drôles de l'âme arriveront pour analyser tous les autres résultats du soir, évidemment, comme de tradition. Mais vous le savez, l'essentiel en Ligue des Champions, comme dans l'after, c'est les 3 points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi veux-tu parler après cette soirée de Ligue des Champions?
Point 1, on va évidemment tirer les enseignements du résultat. Résultat équilibré, mais je dirais dans le point 2 qu'en termes de jeu, ça n'est pas équilibré parce qu'il me semble que Benfica a proposé beaucoup plus de choses que le PSG qui, comme d'habitude, ne s'en remet qu'à la même chose, à savoir ses individualités. Et ça m'amènera au point 3, qui est celui de penser que, comme c'était prévisible, contrairement à tout ce qu'on nous a dit, Christophe Galtier n'a aucun impact sur cette équipe. Tu peux mettre qui tu veux, un chef de gare sur le banc, c'est exactement toujours le même process, le même jeu. C'est Verratti au milieu qui trie les ballons, qui cherche à toucher ses attaquants. Et puis voilà, il n'y a pas de la défense à trois, les deux pistons, les deux machins. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est... un type peut te donner la victoire, Mbappé par une frappe, Messi par un coup franc, Messi par un magnifique but, mais c'est tout, c'est toujours la portion congrue, le minimum en termes de jeu, rien de nouveau sous le soleil parisien. Voilà.
Jérôme, tes 3 points.
Déjà le premier, d'un point de vue global sur le match, sans prendre parti pour l'une ou l'autre, j'ai vu un bon match de Coupe d'Europe, donc dans une ambiance fantastique, donc ça c'est à
Benfica, en général, c'est vrai que c'est toujours sympa.
Mais même, il y avait du rythme, il se passait des choses d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des occasions, il y a eu des arrêts, il y a eu des buts. Franchement, je me suis régalé. Surtout la première mi-temps. Après, d'un point de vue plus Paris, on va parler. J'ai envie de parler de la défense parce que moi, ça m'inquiète quand même. Par moment, certains, et pas que les défenseurs, mais un ensemble de choses défensivement. Et puis après, mon dernier point, Donnarumma, parce que moi, j'ai toujours préféré Navas, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'a pas une grande expérience en Ligue des Champions, mais c'est grâce aussi à lui que tu restes en vie dans ce match.
Absolument.
On va en parler de Donnarumma dans l'évaluation tout à l'heure, évidemment. Oui, alors, bon, vous allez me dire, c'était l'adversaire sans doute le plus fort qu'a rencontré Paris depuis le début de la saison.
Ça, on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas dit.
Ouais.
On l'avait dit. C'était pour moi même le premier vrai test depuis le début de la saison. Oui. Il n'y a pas eu d'adversaire à la hauteur de Benfica.
Mais du coup, c'est comme ça qu'il faut analyser le match à partir de ce constat-là. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait en face une équipe, voilà, qui n'était pas là à se dire on va se prendre une fessée, qui a tenté, et qui franchement a pas démérité.
Ah oui, non, Benfica a joué. Ils ont eu quand même un vrai passage à vide parce que je le comprends. Des individualités pareilles, ça peut déstabiliser même mentalement. Tu dis, attends.
D'autant qu'ils ont quelques jeunes à Benfica.
On fait un bon début de match. On est plutôt bien. On presse plus qu'eux. On propose plus qu'eux. Pouille, mais en trois passes, le titre ne fera plus carne. Ça te refroidit quand même. J'imagine que tu dis, merde, quoi. Eux, en proposant rien, nous. Donc, ça les a perturbés parce que derrière, il y a eu une séquence plus ou moins longue que j'ai du mal à évaluer d'un point de vue du temps où Benfica était complètement amorphe. Stade climatisé, équipe amorphe, comme s'ils avaient pris un gros coup
en
sur la tête.
En deuxième mi-temps, là.
Non, après le but de Messi. Et puis après, ils s'y sont remis. Le PSG, en deuxième mi-temps, t'as raison, a des moments un peu plus maîtrisés, mais c'était équilibré. Et Benfica, globalement, a quand même plus proposé que Paris ce soir. Mais le système parisien, avec ses individualités qui peuvent te casser un match ou te le plier comme ça, ça perturbe aussi les équipes, quand même.
Ouais, il y a ça, je suis d'accord avec toi, Daniel, sur le fait que...
7 tirs au but cadré à 6 pour Benfica.
Sur le scénario du match, ce qu'il faut voir, c'est que, comme le dit Daniel, c'est que la première occasion parisienne, elle fait filoche.
Oui.
Voilà, donc c'est la première occasion qui donne...
Tu les avais pas vus et bim.
Non, et qui met le curseur un petit peu plus haut, parce que franchement, début de match, avec les arrêts de Donnarumma, la possession qui était pour Benfica, les duels gagnés par Benfica, les trous dans le milieu de terrain, oui, il y avait de quoi s'inquiéter. Et puis, c'est vrai que le PSG est assez clinique depuis le début de l'année. Et souvent, sur les premières actions, il marque. Alors après, ça te facilite aussi un match derrière. Sauf que là, c'est la Ligue des Champions. Mentalement, les équipes, elles sont aussi... Et les joueurs sont plus solides que juste un match de Ligue 1. Ou des fois, ou même des petites équipes de Ligue des Champions, elles peuvent s'effondrer après avoir pris un but. Eux, ils se sont relevés, ils ont égalisé logiquement. La deuxième mi-temps était plus dure pour Benfica. C'est vrai que Paris a repris la mainmise sur le match sans être flamboyant. On en revient à ce que tu disais, Daniel, sur le projet de jeu de Galtier. Qu'est-ce qu'il veut faire ?
Je pensais qu'il y avait un pressing haut. Je pensais qu'il y avait une récupération avec un bloc plus haut. Enfin, c'était ça qu'on nous vendait. Une verticalisation plus rapide. La verticalisation, normalement, elle doit aller sur Mbappé. On l'a vu Mbappé ce soir ?
Non, très moyen ce soir.
Très peu Mbappé.
Très moyen, il a eu d'occasion où l'arrêt du gardien.
L'entente entre les trois, Mbappé il peut te plier le match sur sa fameuse frappe enroulée.
Ouais, c'est vrai.
Et sinon pour le reste, alors d'ailleurs, on aurait dit il est décisif, c'est le meilleur. Et c'est vrai, il est capable de merveilles. Mais comme Messi est capable aussi, déjà, en fait on a eu quoi ? Messi qui met une frappe magnifique. Neymar retourné sur la barre. Et Mbappé qui met la frappe enroulée. Donc en fait. Voilà, tu te reposes toujours là-dessus. À côté de ça, tu as toujours les trois derrière qui sont quand même à la ramasse avec un Ramos. À un moment, il va falloir se poser de vraies questions. Ouais. Verratti, qui dans une bonne partie du match, est toujours à l'aise techniquement, oriente. Mais plus ça va, plus fatigue. Honnêtement, il doit prendre rouge ce soir.
Parce que
la première fois, il ne prend pas carton jaune. Il le prend la deuxième. Mais en cumulé, les deux fautes, elles sont grosses. Mais parce qu'il commence à se cramer, comme d'habitude. Il n'arrive plus à courir, il ralentit. À la fin, il avance comme avec une caravane au cul. Donc forcément, il fait des grosses fautes.
Ils font un énorme boulot avec Vitinha quand même. Il court beaucoup.
Beaucoup trop. Le milieu, il est dépeuplé.
Où je te rejoins. Alors après, il y a aussi, moi, ce que j'ai vu. Alors, ça a eu du mal à apprendre. Mais j'ai trouvé que Neymar avait été un peu plus incorporé au milieu de terrain. Par exemple, en première mi-temps, quand le PSG est moins dominant, est un peu plus bas. Vraiment, Neymar, il joue quasiment sur la même ligne que Vitinha avec Verratti, qui est vraiment numéro 6.
Il joue
6.
Un peu quatrième, troisième milieu.
Et t'as deux attaquants. Messi qui fait ce qu'il veut. De toute façon, il est totalement libre avec Mbappé à côté.
Ah, mais Messi, voilà. C'est aussi au fil d'un match, il baisse.
En fait,
d'ailleurs, il est sorti avec une douleur.
C'est toujours pareil. C'est vrai que Messi, quand tu le vois aujourd'hui, sur un coup de patte, une accélération, il a retrouvé ça. Il peut te faire la différence. Donc, il est important sur le terrain. Autant avant, et c'est pour ça que moi je mettais des critiques sur lui, c'est qu'il n'était pas efficace. Il donnait pas de balle de but. Il marquait pas.
Ouais, tu veux dire, il avait même plus ça.
Non, voilà. Donc là, il l'a. Donc si tu l'as, non, mais si tu l'as sur le terrain, moi j'en reviens toujours à la même chose. Ok, il faut accepter. Et c'est pas une tare en soi de mettre Messi, Neymar et
Mbappé. Non, tu développes pas un jeu.
Bah, en fait, tu peux le développer, Daniel.
Tu tiens et t'attends que les mecs te fassent le truc, quoi.
Tu peux le développer, mais moi, je reste persuadé que ce dispositif, ce schéma de jeu, qui était où tout le monde le voulait l'année dernière, rappelez-vous, hein, ouais, c'est bien. Je pense qu'il est pas fait pour les joueurs avec ces trois devant. Voilà. Oui, qu'il faut densifier un peu plus le milieu de terrain en rajoutant un joueur, un vrai milieu et pas Neymar pour le sacrifier un petit peu parce que Neymar est capable, il a fait des efforts encore aujourd'hui. Mais c'est au détriment de son jeu offensif et de sa liberté qu'il peut avoir parce qu'il est quand même fantastique quand il prend le ballon dans les pieds. Et derrière, ben, retrouver des latéraux qui savent au moins ce qu'ils font. Parce que Hakimi ou Nuno Mendes, et en plus il s'est blessé donc tu vas le perdre. Putain, un coup, ils sont très hauts. Mais tu t'en sers pas parce que, comme dit Daniel, tu veux à chaque fois focaliser le jeu sur les trois de devant dans des petits espaces et tu écartes pas assez. Il y a pas assez de centre quand tu joues comme ça.
Mais tu vas centrer sur qui?
Non, mais normalement, on est d'accord que ce dispositif, ce schéma de jeu, Daniel, c'est pour passer sur les côtés
si
aussi.
Si t'as Haaland dans l'axe.
Et ouais, bon, mais tu peux
là,
avoir.
Là, tu vas centrer sur qui?
Mais tu peux avoir un projet.
Neymar, il décroche. Messi, il va pas jouer le 9, il va pas aller 1. Et Mbappé, il le fait pas non plus. Tu vas centrer sur
non,
qui?
Non, mais tu peux avoir des débordements pour un petit centre en
retrait.
Oui,
tu vas avoir, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit souvent.
Normalement,
ce
schéma de jeu, il est comme ça. Et si tu veux pas l'utiliser offensivement, parce qu'il l'utilise pas comme ça offensivement, au moins défensivement, c'est pour trouver de la solidité, on est d'accord. Pour avoir 5 défenseurs dans ces cas-là. Mais c'est même pas le cas.
Quelle solidité? Dans l'axe, ça passe, c'est du beurre.
Mais Daniel,
c'est du beurre.
C'est
l'action
pour ça
Rafa Silva
en a un de trop.
Et sur le ballon récupéré au milieu où il y a probablement faute sur Verratti. Mais c'est du beurre, il traverse, il y a Ramos et Marquinhos sur le dos, il a bousillé les deux. Il a bousillé les deux, il termine par une espèce de pointard que Donnarumma sauve. Bon, encore une, tu l'as dit, hein, Donnarumma ce soir, c'est non, mais peut-être pas homme du match, mais il est top 3 ce soir.
De toute façon, quand le niveau s'élève comme ça et qui a beaucoup de rythme avec des joueurs quand même adverses qui ont de la qualité technique plus que la plupart des équipes de Ligue 1, forcément à la récupération de la balle, le crochet, la petite passe qui va bien, Verratti qui est tout seul dans le milieu de terrain, il peut pas tout faire, donc il est transpercé et ça arrive lancé sur les trois défenseurs, et en plus sur les trois défenseurs t'as Danilo qui est pas à son poste et Ramos qui est à la ramasse quand le ballon passe dans son dos. C'est compliqué, hein. C'est sûr que tu vas concéder des occasions. C'est pour ça que je te dis, pour aller voir plus loin, parce que là aujourd'hui c'était pas qu'un mauvais match du PSG, mais pour aller voir plus loin, tu te dis, l'axe de progression.
Là, vous considérez que c'est un mauvais match du PSG ?
Non, je viens de te dire.
C'est un match moyen.
Je viens de te dire, pour moi,
c'est pas un mauvais match.
C'est pas un mauvais match, mais sur la prestation collective, tu vois Benfica.
Quand t'as un vrai adversaire, t'es à l'extérieur en Coupe d'Europe, dans un contexte.
Un vrai adversaire. Mais,
C'est Benfica.
Benfica, avec tout le respect, Dieu sait que j'en ai énormément pour ce club.
Oui, ok, c'est pas City, on est bien d'accord.
Voilà, on parle pas. Benfica, ils sont pas dans la liste des prétendants au titre.
Oui, Daniel, on est toujours les premiers à prendre avec des pincettes la phase de poule. Bon, tu fais n'importe quoi, Benfica, il y a rien d'infamant.
Mais j'ai pas dit que c'était infamant.
Non, résultat,
c'est un résultat qui va contribuer à ta qualification.
Exactement.
Qui est tout à fait logique.
Et sur la deuxième mi-temps, pour aller dans le positif, comme tu dis, Gilbert, sur la deuxième mi-temps, c'est quand même eux qui font le jeu. Les Portugais étaient carbo. Ils ont joué dans leur camp, ils ont défendu. Après, il faut l'inspiration, la réussite.
À la fin, t'as beaucoup de joueurs parisiens qui étaient aussi physiquement un peu entamés.
Il y en a un paquet qui était cramé.
Mais parce que c'était, quand je te dis que mon premier point, c'était un bon match de Ligue des Champions, il y avait du rythme, il y avait.
Moi, j'attends de voir encore le nombre de kilomètres du PSG dans l'ensemble. Ce sera pas encore le rythme d'un vainqueur de la compagnie.
Je vais te dire qu'à la mi-temps.
Je suis curieux de voir ça.
Daniel,
encore.
À la mi-temps, il y avait 5 kilomètres d'écart entre les joueurs de Benfica et les joueurs du Paris Saint-Germain. 5 kilomètres.
Je suis pas sûr qu'on soit à 115 encore.
Sur une mi-temps, c'est beaucoup parce que ça veut dire
ça veut dire toujours la même chose. Le PSG donne pas assez. Globalement, il donne pas assez en effort.
Je pense que t'as raison, sur la première mi-temps, il y a des manques.
Ouais.
Sur le nombre d'efforts et tout ça. Après, sur la deuxième, vu qu'ils ont le ballon, on va pas leur demander de courir dans tous les sens. C'est le ballon qui court.
S'ils accélèrent un peu, si eux, ils vont le gagner, le match.
Ouais.
Le match, ils peuvent le gagner. Moi, permets-moi d'avoir l'exigence j'ai envie que le PSG gagne à Lisbonne.
Allez, une minute de grosse fraîcheur.
Jour de gagner à Lisbonne, mais en même temps, ils avaient déjà joué là-bas en phase de poule, époque Ancelotti n'avait pas gagné.
Aucun club français n'a gagné à Lisbonne.
Oui,
et ça continue.
Mais ce PSG-là, je veux dire, attends, il est quand même vendu comme constellé de stars, Messi, machin. T'as quand même le droit de penser que le PSG doit gagner à Lisbonne.
Exactement.
Il y a plus de stars à Paris qu'à Lisbonne, qu'à Benfica, ça c'est sûr.
Normalement, tu dois te dire, il gagne à Lisbonne. Eh ben non, il ne gagne pas.
Dans une minute et quelques secondes, on est de retour. On aura la salle au 32-16 et on entendra la première réaction, celle de Marco Verratti, il y a quelques instants. Et tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit et demi.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit et demi avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, avec tout à l'heure les drôles de la main. À minuit, elles seront là toutes pour analyser les autres résultats du soir. Chelsea qui avait une petite baffe à Milan ce soir par exemple, 3-0. Les clubs allemands, Leipzig qui bat le Celtic et Dortmund qui gagne à Séville, entre autres. Voilà,
les clubs sont très sympas.
Oui, Séville, ça va pas très fort.
Hein. Ouais, il y a un changement d'entraîneur sympa, il va revenir.
Ouais, bah ouais, bah il est temps qu'il change parce que là ça va pas. Ouais.
Ce sera tout à l'heure à minuit. Et pour l'instant, il est toujours sur le PSG et on accueille Lassana qui est là. Salut Lassana au 32-16.
Salut les gars, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, c'est cool.
Bon, on était sur la performance globale de Paris là avant de rentrer dans les détails, de faire l'évaluation.
J'ai écouté. Bon, déjà, si juste que vous me permettez, Daniel, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit. Et malheureusement, comme d'hab, faut que tu mettes un taquet à Marco Verratti. En le mettant dans les points noirs de la soirée. Franchement, ce soir, je sais pas comment tu peux le mettre dans les points noirs.
À quel moment j'ai dit ça?
Bah ouais, tu parles d'un carton rouge qu'il aurait pu prendre.
Mais mais ça c'est vrai.
C'est vrai, mais regarde le carton. Et encore,
tu fais. Excuse-moi, t'as oublié que Daniel a dit que c'était lui qui faisait le ménage au milieu.
Mais franchement, Daniel.
Mais moi, je me suis dit, tiens, c'est positif.
Sur le carton rouge, c'est juste vrai.
Daniel, ouais, mais si tu prends le premier, il fait jamais la deuxième faute, tu sais très bien. La deuxième, il l'a fait parce qu'il sait qu'il va prendre carton, Daniel.
Non, la deuxième, il l'a fait.
Ça, en revanche, je crois pas ça.
Pardon. La deuxième, il l'a fait à la quasi dernière minute du match parce qu'il est cramé, qu'il est incapable de sprinter. Parce que Verratti, il a pas de qualité.
Il a un cul qui fait 100 kilos et qui n'arrive pas à avancer.
C'est qu'il court comme un escargot.
Qu'est-ce que t'as contre les gros culs, toi?
Non, mais avance pas. Même toi, tu courais beaucoup plus vite, Jérôme.
Ah, bah oui.
Jérôme, non plus, c'était pas le plus rapide du championnat.
Oui, excuse-moi. Il n'empêche, parce qu'il a aussi un peu le popotin. Mais Marco, c'est un peu.
Mais tu sais, la Sana, où là je te rejoins, c'est que Daniel voulait qu'il prenne un rouge pour qu'il prenne trois matchs, tu vois.
Voilà.
Comme ça, au moins, je plaisante.
En plus, il prend pas trois matchs. Il en aurait pris qu'un, malheureusement.
Non, mais attends, pour revenir au match, plus sérieusement, franchement, on sait tous qu'avec ce PSG-là, on va être amené à souffrir. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a le ballon, on est censé avoir une vraie maîtrise. Une maîtrise que j'avais l'impression qu'on avait en début de saison.
Mais toi, ça te saoule pas, Lassana, honnêtement, ouais. Lassana. T'es supporter du PSG, ça fait des années, j'imagine que t'es là, que tu regardes les phases de poule, que tu te nourris d'espoir, que j'imagine que l'année dernière au printemps t'étais fâché, que l'année d'avant également, que celle d'avant un peu moins parce que ça avait été en demi, donc tu t'es dit on est sur le bon chemin, machin. Ouais, t'es un club qui a un fric de malade, tu peux faire venir qui tu veux, tu fais venir Campos, on t'annonce une révolution, on te dit le mercato, machin, et toi, on termine fin août. Le directeur sportif, il va dans l'émission de Jérôme. Il dit on a raté notre mercato. Bah, tu te dis pas merde. Ah bon? Bah, je pensais que bon, ok, très bien. Les matchs un peu plus compliqués arrivent. Les prestations deviennent un peu moins bonnes. On arrive, on est début octobre et finalement on revoit tout le temps la même chose. On se dit bon, si Mbappé il met sa frappe enroulée, on va gagner comme ça. Si Neymar il est dans un grand soir et il fait pas sa tête de mule à s'énerver, à plonger dès qu'on le touche, machin. T'en as pas marre de tout le temps revoir la même histoire chaque année?
Un truc, même on gagne ce soir, je suis pas content. La vérité. Même
non mais tu vois, c'est histoire de voir une nouvelle histoire un jour, un truc nouveau.
Ah ouais, mais
tu vois, un vent frais, virer, quoi, quelque chose. Tu vois, je sais pas quoi. T'as l'impression, c'est comme si tous les étés tu vas en vacances au même endroit, t'as toujours ta même chaise longue, ton même parasol, tu veux un peu de frais à un moment, quoi.
Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais bon, ça, nous, on n'a aucune incidence sur ça, donc nous, on fait avec ce qu'il y a. Et quand je vois aujourd'hui le match du soir, j'ai les boules encore une fois, parce qu'il y avait un truc qui marchait au début de saison et que Gatti, il a complètement cassé, je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui. C'est Neymar Messi dans le cœur du jeu, proche de Vitinha et Verratti. À un moment, début de saison, on avait un carré dans le cœur du jeu. Ça nous permettait d'être plus facile à la ressortie de ballon.
Mais ça n'a pas existé vraiment.
Et d'avoir les couloirs, et je te jure, ça existait. Regarde les premiers matchs.
Il faut que ça dure vraiment, tu vois.
Non, mais regarde, au début de saison, Neymar, il finissait le match avec zéro dribble. Aujourd'hui, tu le remets sur un côté, il se retrouve encore à partir dans des dribbles impossibles et tout. On sait que l'équipe, elle est construite de manière bancale. Et au moins, ce qui marche, Neymar Messi dans le cœur du jeu, ils n'ont pas besoin de courir de fou, ils sont proches, ils arrivent à échanger beaucoup. Neymar Messi, ils échangent quasiment plus. C'est ce qui faisait la force du PSG au début de saison.
Ouais, mais moi, t'es d'accord, Lassana, que je sais pas si tu suis le football européen, mais les grosses équipes, celles qu'on regarde, tu vois, il y en a qui jouent comme le PSG.
C'est très bien qu'il y en a qui ne jouent pas. Mais il y en a combien qu'on effectue
personne, le PSG personne joue comme nous, en fait.
Personne n'a trois stars comme le PSG. Donc, t'es obligé de faire avec ce que t'as, Daniel.
Ouais, mais bon.
Pas bien. Après, la Sana, t'es obligé. Moi, là où je te rejoins pas sur le carré, le fameux carré au milieu de terrain, déjà, tu vas pas inventer des positions à des joueurs qui n'ont pas fait ça par rapport à près de les trois quarts de leur carrière. Dire Neymar avec proche de Messi dans un carré proche de Verratti et de Vitinha, je sais pas, si tu as le Messi du début de saison de l'année dernière, il y a pas de problème, il peut le faire parce que il faisait que des redoublements de passes et des petites passes là en un truc parce qu'il a un bon pied, il a un bon œil, mais par contre, il était incapable de résister physiquement à des duels. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut reconnaître que Messi est capable de résister. Il l'a montré sur le match du week-end. Il l'a encore montré là avec son coup de patte. Il a retrouvé beaucoup plus de peps physique. Mentalement, je trouve qu'il est mieux quand même. Il sourit un peu plus. Donc, Galtier, il lui donne un peu plus de liberté offensive. Il se rapproche du but à l'image de sa position tout au long du match où il est vraiment comme un électron libre, mais presque un deuxième attaquant. On est d'accord, ça.
Oui, mais tellement proche du but qu'au milieu de terrain, t'as plus aucune maîtrise.
Oui, mais
Verratti, Vitinha, ils essayent de changer un peu le ballon quand ils peuvent, mais il y a personne avec
eux. Oui, mais sauf que.
S'ils font pas des passes de 30 mètres, ils cassent le premier pressing. Tu touches pas les deux. Alors que les deux mecs, ils se rapprocheraient de je sais pas,
tu joueraient du reste. Je suis pas sûr parce que, Lassana, il y a quelque chose, le PSG, tu l'as dit, dans l'utilisation du ballon, ok, on aime ou on n'aime pas le style, mais quand même, quand ils prennent le ballon, ils ont eu des phases de possession qui étaient impressionnantes aujourd'hui. Il y a eu des fois où ils ont gardé le ballon 2-3 minutes avec un gros pressing de Benfica. Les mecs, techniquement, ils sont largement au-dessus de la moyenne. Donc, bien sûr qu'ils sont capables de faire déjouer n'importe quel pressing. Mais n'empêche que Galtier, il avait décidé de rapprocher Neymar dans le milieu de terrain pour qu'il soit à 3 et pas à 2 comme d'habitude, avec Vitinha, Verratti en 6 et devant la défense et Neymar un peu plus haut sur la gauche. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu inventes un poste à Neymar et tu le sacrifies un petit peu dans l'organisation du jeu.
Et Campos, il a dit,
un doublon. Et c'est un peu malheureux
Campos,
d'avoir
il a
comme
dit,
ça,
un doublon et il l'a redit, Campos. Campos l'a dit deux fois pour être sûr qu'on ait bien compris. Il y a un doublon.
Ouais.
Donc on sait que la compo, elle est pas bonne. Donc il faut espérer gagner la Ligue des Champions avec les mêmes qualités, les mêmes défauts que l'année dernière, que l'année d'avant, que l'année encore d'avant, que depuis qu'en gros Neymar est
Daniel,
au club.
Pour gagner la Ligue des Champions avec ces trois-là, je suis persuadé.
Il faut
déjà
un gros concours.
Ça va être très très compliqué. Mais si tu veux la gagner avec Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain, eh ben il faut absolument repasser à 3 au milieu de terrain et virer un défenseur et passer
ça,
à 4 derrière.
Ça,
alors, Lassana, merci beaucoup.
Salut Lassana.
Salut Lassana.
Il faut que Galtier se mette à réfléchir à ça, mais en même temps, il est vachement occupé, Galtier, parce qu'à chaque fois, tu vois, dans les matchs, sa tête est chauffe. Il dit, bon alors attends, Fabien Ruiz, c'est 81e, 87e, à quel moment je le fais rentrer? Bon alors attends, donc à la 85e, qui je vais pouvoir faire rentrer? Donc après, il regarde l'arbitre, le quatrième, il fait combien de temps il reste? 5 minutes? Oh merde, faut que je fasse rentrer un mec. Ça occupe l'esprit, tout ça. Ouais.
Hein. Écoutez, Marco Verratti, les gars.
Les de la 85e, faut
on
faut
reparlera
réfléchir,
de Galtier un peu plus tard.
Les matchs et les blessures arrivent. Hein.
Marco Verratti, il a été élu homme du match
au
par.
Moins, comme ça lui UFA. Rendra service, il n'aura pas trop à réfléchir.
Nuno Mendes, il a perdu. Je pense que Messi.
Messi mal au genou.
Une petite alerte.
Acteur Messi, pour la Coupe du Monde, il ne va pas prendre de risque.
Allez, on écoute Verratti.
Je pense qu'il y a toujours un peu de frustration, on est Paris Saint-Germain, on joue toujours pour gagner. C'était un match qu'on savait que c'était un match difficile contre une très bonne équipe. Avec la Juve, c'est une équipe qui, à la fin, se va jouer jusqu'au final de cette qualification. Je pense que les premiers 15 minutes, c'était un peu difficile. Je pense aussi que je pensais que des fois, c'est normal, quand tu joues à l'extérieur, c'est toujours un peu plus dur. Après, on a pris la maîtrise du jeu, on a créé des occasions. Le but à 3 minutes de la fin, nous a fait un peu mal. Mais je suis content de comment on a recommencé deuxième mi-temps. On a recommencé très, très fort, avec des occasions claires. Et je pense que la Champions League, il faut tuer le match, il faut marquer, parce que on ne va pas arriver à avoir 10 occasions comme ça, claires par match. Mais comme je dis les autres, je pense que ce sont des matchs où quand on ne les gagne pas, il ne faut pas les perdre. C'est un match de confrontation directe. Dans 7 jours, on est à Paris, chez nous. Et on sait qu'avec une victoire, on s'est mis vraiment dans un bon positionnement. Et je pense qu'on a donné tout. On a donné tout, on a fait des sacrifices. On n'a jamais passé le rythme. Et c'est une équipe qui a un rythme très très haut. Mais je pense qu'on a répondu présent dans cette cas. Et pour ça, je suis content de la prestation. Après, bien sûr qu'on... qu'on essaie toujours de gagner, avoir un résultat meilleur.
Voilà, pour
Marco Verratti. Le match arrive très vite.
Ouais.
Le retour.
Ah oui, la semaine prochaine.
Dès mardi soir, t'as le PSG Benfica.
Exactement. Dans quelques instants, on revient sur Galtier.
Avec l'opportunité de te qualifier.
Bon, j'aurais pas donné homme du match.
C'est bouclé. Ouais,
à Verratti, moi, j'aurais donné à Messi. Homme du match.
Ouais, c'est vrai.
Oui, ou Donnarumma.
Il fait un très bon match, il marque.
Ou Donnarumma.
Daniel a raison, c'est vrai qu'on récompense très rarement les gardiens, mais là, il fait quand même 3-4 arrêts de grande classe, quoi.
Ah, l'arrêt du match, c'est pas Donnarumma. C'est l'arrêt de Vlachodimos sur Mbappé. C'est l'arrêt le plus compliqué, c'est celui-là.
Oui, c'est vrai.
Parce que Donnarumma, il a la capacité de bien se placer. Mais les frappes sont sur lui globalement quand même.
Oui, mais bon, sauf que ces arrêts-là, il les faisait pas avant.
Si, ces arrêts-là, justement, c'est des arrêts qu'il fait.
Il a quand même de l'envergure.
C'est des arrêts qu'il fait. Les arrêts qu'il fait ce soir, c'est des choses qu'on a déjà vu faire.
Mais après, il se passe bien.
Sauf la première, la première occasion, le premier face-à-face.
Avec le bras,
franchement,
là.
Franchement, ouais, ouais. Il fait un bel.
Non, c'est pas celui.
Non, c'est le pied. Du pied.
Le bras, c'est un bel arrêt, d'ailleurs. Le bras, c'est un bel arrêt. C'est
du pied. Il reste bien.
S'il y a un face-à-face qui est dans les premières minutes, tout de suite. Hein.
Ouais, c'est pour ça.
Ils ont concédé beaucoup des trucs comme ça qui ça illustre les problèmes aussi bien au milieu que dans cet axe de la défense. Exactement. Où tu es censé être renforcé et tu l'es pas.
Galtier au programme, l'évaluation, vos appels au 32-16 sur le PSG, ensuite les drôles de l'âme à minuit pour tous les autres matchs de la soirée. On est là avec vous dans l'after jusqu'à minuit 30 comme tous les soirs de Coupe d'Europe. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo est là, bien sûr. Jérôme Rotten tous les soirs 18h, Rotten sans flamme, évidemment.
Ouais.
Le rendez-vous est là. Demain,
le rendez-vous est là. Demain, ça va être le débrief du match du Paris Saint-Germain. On va se servir de ce que vous avez dit dans l'after.
Ouais, bah, Rotten sans flamme, c'est vachement bien, mais il faut peut-être vous bouger au niveau des podcasts, hein, parce que là, vous êtes loin de l'after encore.
Ah bah là, on est même très très loin de l'after. là, on vous sent même pas le cul, quoi.
Mais un jour peut-être.
Écoute, Gilbert, l'émission, elle a un an.
Le derrière, on dit pas le. On dit le derrière.
Oui, bon, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil.
Pardon, excusez-moi.
Je fais la chasse aux gros mots. Depuis 15 ans,
excusez-moi, le derrière.
C'est du taf.
Le derrière, mais ouais. Écoute, un an et demi, on est quasiment dans les 10 podcasts de France.
Ouais, vous y êtes.
On y est, donc
bravo.
Ah, écoute.
Bon, Galtier, tout à l'heure, Daniel a mis ça dans ses trois points. Est-ce que Jérôme, t'es d'accord? Daniel, c'est un constat assez dur, en mode Galtier ne sert à rien, tu mets le chef de gare, c'est pareil. Bon, peut-être un peu exagéré. Toi, tu t'en penses quoi?
Et je ne parlais pas que de lui.
Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chef de gare.
Tous les entraîneurs récents,
en fait, ils
finissent comme ça. Lui, il a fini comme ça plus tôt que les autres.
Par rapport à aux autres entraîneurs, il a tenté un truc qui était criant de toute façon l'année dernière, c'était essayer de passer à 3. Ok, mais après, quand tu passes à 3, c'est pas juste faire un tableau noir et dire voilà, on joue à 3 derrière avec 2 pistons.
Bien sûr.
Et avec les 3 devant et vous démerdez un petit peu. Alors, ça a été un peu ça sur le début de saison, mais ça se met en place.
Sa seule idée, lui, c'était la craie. La craie sur le tableau.
Là, aujourd'hui, Daniel est un peu dur, mais il a pas totalement tort. Mais aujourd'hui, il a tenté quand même un truc. Je te dis, il a essayé, entre guillemets, de sacrifier offensivement Neymar en le faisant revenir dans le milieu de terrain. Et je me souviens, moi, l'interview que j'ai faite de Campos, il me l'a plus ou moins dit. Au d'un moment, il a dit oui, on voit très bien que dans le milieu de terrain à deux avec Vitinha et Verratti, quand le niveau va s'élever, il va y avoir du
risque. Si tu dois faire ça, tu dois pas mettre Neymar alors, faut mettre un autre type de joueur.
On est d'accord. Mais.
Et tu laisses Messi Mbappé libre alors dans ce cas.
Après, Daniel, il peut aussi le tenter parce que. Franchement, c'est pas un match couperet, même si tu perds des soirs. Je pense que le PSG va se qualifier dans tous les cas.
Oui.
Et donc, il le tente. Là, il a dû voir, il n'est pas plus con que les autres, il a dû voir que Neymar, offensivement, il a été moins bon que d'habitude. Que Neymar, défensivement, eh ben, il y a des occasions qui sont passées de son côté avec les milieux de terrain qui
Neymar, encore des trois, c'est celui qui défend le plus.
Ah, ben oui, mais c'est pour ça, la position qu'il a. De toute façon, il ne peut pas faire
défendre. Il défend mal, il fait des fautes, il a encore fait n'importe quoi, il a toujours un caractère de cochon. Il se comporte mal, ce que tu veux, mais bon.
Mais tiens, là, bah justement, il arrive en conférence de presse, Christophe Galtier, on va peut-être.
Ah, j'espère qu'il va vous parler du changement à la 87e. J'ai vraiment besoin de savoir ça.
Nuno Mendes, on s'aperçoit que dans ce calendrier très chargé, même surchargé,
là, c'est juste
il y a beaucoup d'incidents et de blessures.
Là, il est bien avec le carnet de
champion. Écoute-le.
Voilà. Il faut arriver en forme sur ce grand rendez-vous parce que mardi ça sera un grand rendez-vous.
Des petites nouvelles quand même pour Lionel Messi qui est sorti un petit peu vers la fin juste par précaution, est-ce que tout va bien?
Oui, il a fait un signe en disant qu'il voulait sortir, qu'il voulait sortir. J'ai vu que sur la dernière accélération Paf, il s'est senti fatigué, mais voilà, il est sorti parce qu'il était fatigué et qu'un joueur, un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci à vous.
Bon, dommage, on a raté le début.
Attends, je regarde à quel moment Messi est sorti, parce que ça,
87e.
Ça pouvait être décisif.
87e.
C'est 87e. J'avais peur que ce soit 85e, mais c'est bon, quoi. C'est 87e, c'est vrai.
Non, mais après, pour en revenir à l'impact de Christophe Galtier par rapport à son collectif, c'est vrai qu'on est en droit d'attendre, quand tu joues comme ça, que l'animation soit différente.
Ils prennent le petit-déj, hein. Quand même. C'est pas rien.
Daniel, pour l'instant, il fait pas pire que ses prédécesseurs.
Bah,
il a tout gagné, voilà, il a fait 2 nuls.
Moi, j'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai juste dis ça par rapport à ce que j'ai lu tout l'été. Tout l'été, j'ai lu que c'était un mélange d'Arrigo Sacchi, Capello.
non, ça, c'est Régis Lebris.
Qui était Erinus Michels, qui était arrivé au PSG. Donc, moi, je m'attendais à voir du jeu virevoltant, non. Du pressing haut.
Non, mais arrête
c'est ce que j'ai lu tout l'été. L'été, j'ai lu que on avait au club maintenant l'entraîneur qui allait faire oublier tous ceux qui étaient passés.
Il a plutôt raison. Il a eu une presse hyper positive, quand même.
Oui, une presse hyper positive. Mais
toujours plus, lui.
C'est au-delà de positif.
Écoute, Daniel,
c'était les lettres d'or. Il était à l'Olympia. T'allais à l'Olympia. Il s'est écrit Christophe Galtier arrive au PSG. Il y avait les tambours, les trompettes. C'était fantastique. Non, mais tu vois, c'était pas une presse positive, ça.
Le seul truc,
c'était à la limite, les gens se taillaient les veines dans la rue.
Daniel, là où t'es sévère, je trouve, c'est que des matchs comme aujourd'hui étaient promis à le dire. C'était vraiment le premier gros match. Test pour le PSG aujourd'hui.
Bah oui.
On est d'accord. Donc, il va se servir de ce gros match test et on va voir l'autocritique qu'il fait. S'il se satisfait juste du 1 partout en disant, voilà, bah Messi, c'est pas fantastique quand il touche le ballon, on a eu des occasions, on aurait pu gagner, et puis bon, on en concède, c'est pas grave. Par contre, si, avec ce match-là, il essaye de rectifier dans les prochains matchs et dans les prochaines grosses affiches, parce qu'il va y en avoir des gros matchs du PSG, il essaye de modifier.
Il va modifier quoi? C'est tout le temps la même équipe.
Mais non, mais peut-être que il va se dire, au bout d'un moment, ce qu'on est en train de se dire, c'est que à trois derrière, c'est peut-être pas le bon schéma, parce que Ramos est en difficulté.
Ah,
parce
tu veux
que
dire notre espoir doit reposer sur le fait qu'il sorte un des trois et qu'il passe à quatre derrière.
Oui, parce que moi, je partais du principe que...
Et il met Fabian Ruiz en plus au milieu, par exemple.
Ça, parce que moi, au départ, j'avais dit soit il garde le même dispositif.
Le faire vite, parce que Fabien Ruiz, au train où ça va, au niveau du manque de rythme.
Moi, j'avais dit, Daniel, chose, hein. J'avais dit il y a quelques semaines, et quand je vois le niveau de Messi, par exemple, pour moi, il fallait le sacrifier et le faire entrer une demi-heure à la fin, et puis qu'il t'apporte avec son coup de patte. Aujourd'hui, Messi est redevenu un joueur de grande qualité, donc c'est difficile de faire sans lui. Donc à partir
et on est
de là,
sûr que quand le rythme va beaucoup s'élever, c'est après, quelqu'un qui est encore
mais s'il tient pas, mais s'il est décisif, ouais, qu'est-ce que tu veux dire?
Tu peux pas le sortir parce que t'oses pas. Il faut qu'il fasse signe.
Non mais là, si on avait un qui fait pas sortir, signe, parce que c'est pas Messi, c'était Mbappé ce soir.
Galtier l'a dit, oui, mais il faut qu'il fasse signe. Si les mecs font pas signe, ils sortent pas. Les mecs font signe. Il l'a dit, j'ai vu Messi, il m'a fait signe. L'hélicoptère a fait signe. Sortez-le vite, il a fait signe.
Daniel, aujourd'hui.
Vas-y, laissez la combien 87, c'est bon, on peut.
Daniel,
aujourd'hui. Il était en sueur. Il était trempé de sueur.
Daniel, on est d'accord. Autant contre Maccabi Haïfa,
si on lui fait pas signe, il peut pas.
Il était inexistant, qu'il sorte à l'heure de jeu, moi ça m'aurait pas dérangé. Mais là aujourd'hui, il est bon. Dès qu'il touche le ballon, il fait des différences. Donc
non, je te dis que c'est Mbappé qui aurait dû sortir plus tôt.
Ah oui.
Ah bah alors là, t'as plus du tout de profondeur.
Après, par Mbappé, contre, hein. franchement, pour de bon.
Là, tu changes.
Si tu sors,
tu l'as jamais utilisé la profondeur là.
Ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'avais compris que il allait avoir récupération, jeu instantané vers l'avant, profondeur.
Après la profondeur en deuxième mi-temps.
Après, moi, j'ai entendu Mbappé. J'ai entendu Mbappé dire en équipe de France qu'il voulait pas jouer pivot parce qu'on lui demandait de faire quelque chose qu'il aimait pas.
Ouais.
J'ai entendu Luis Campos dire qu'il y avait un doublon. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que tout allait bien et puis d'un coup tout va moins bien.
De toute façon, tout n'est pas parfait, tout n'est pas catastrophique.
On nous a menti.
Mais
non, quand même.
Christophe Galtier, ce sera la première discussion en conférence de presse.
Peut-être le changement à la 85e maintenant parce qu'on a eu l'explication pour.
Première réponse.
Alors.
Ça arrive dans quelques secondes, le temps que ça vienne de Lisbonne, c'est bon.
A tellement eu une ébauche d'énergie très importante en première période, en voulant contrarier nos premières ressorties, en nous pressant, aussi en cherchant de la profondeur, et donc automatiquement des courses intenses, ce qui nous a mis quand même en difficulté parce que autant je trouvais que mon bloc équipe était bien positionné, assez compact, mais il manquait à mon goût, il manquait beaucoup trop de pression sur le porteur de balle en première période, ce qui a généré 2-3 ballons dans la profondeur qui ont pu nous faire douter et qui ont créé des, qui ont donné évidemment de l'espoir à cette équipe qui est une très bonne équipe. On a eu un temps fort en première période après notre but, juste avant le but qu'on a encaissé, mais sans créer énormément de situations, même si on a eu une forte domination dans le camp adverse, on n'a pas créé beaucoup de situations. Et puis après, patatrac, ce but, parce que on a pris une part de risque importante dans la ressortie de balle. voilà, on prend ce but. En deuxième période, l'équipe a été beaucoup plus agressive, beaucoup plus intense dans la récupération du ballon, beaucoup plus haute. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de verticalité aussi dans notre jeu, avec des appels dans la profondeur, ce qui nous a beaucoup manqué en première période. Et on a créé, voilà, on a été dangereux, on a créé beaucoup de situations sans pouvoir marquer ce deuxième but. Alors, est-ce qu'il y a des regrets par rapport à la deuxième période ? Oui, mais quand on regarde la globalité du match, chaque équipe a eu des temps forts. Et sur les temps forts, les gardiens des deux côtés ont fait des arrêts aussi importants. Oui, des regrets sur la deuxième période, mais je pense qu'on aurait pu, en première période, sur notre temps fort, être beaucoup plus dangereux si on avait eu beaucoup plus de mobilité.
Voilà pour Christophe Galtier, donc qui a un point commun avec Coach Courbis, c'est l'expression patatrac.
Patatrac.
Patatrac, comme dire. Voilà. Ouais. Bon, ils nous ont refait le match. On avait à peu près fait la même chose.
Ouais, mais j'ai pas eu mon explication sur la 85e. J'ai eu sur la 87e.
Thierry, il a fait signe. Thierry, regarde, Messi a fait signe. Faut sortir.
Thierry,
t'es sûr que c'est pour le sortir ou pas? Parce que Titi ramène lui de l'eau, on sait jamais. Ne le sors pas tout de suite.
Allez, dans un instant, l'évaluation. Les gars, on va revenir sur les performances individuelles de chacun.
Thierry,
on va
parler de la défense.
Si, tu dis quoi? Non, oh non, c'est pas moi.
Attends, laisse-moi, je vais l'écrire. Attends, je vais faire un dessin tactique.
Et puis on dira un mot de
Benfica. T'es sûr qu'il veut sortir? Non, j'ai pas vu ça.
Dans un instant, Yessil avec nous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, tout comme Jérôme Rotten. Louis Fernandez nous écoute comme d'habitude. Il me dit ce soir, tu as deux entraîneurs.
Il le sait que j'ai fêté son anniversaire en direct dans l'émission.
Bravo Pep et Klopp, dit-il.
Alors, c'est vous. C'est qui Pep? Non, mais demande-lui qui est Pep et qui est Klopp.
Il appelle.
Ce qui est sûr, c'est que lui n'a jamais été Klopp ou Pep.
C'est vrai que t'es plus blond, t'es plus Klopp, toi.
Ah, on est d'accord quand même qu'il a jamais été Pep ou Klopp.
Non, il a été Louis, ça suffit. Ouais.
Ouais. Il a été Louis avec une belle carrière d'entraîneur.
Ah oui, exactement. Ouais.
Que les jeunes ont un peu trop oublié.
Bref, Yessine est-il là?
Lui, au moins tactiquement, il tentait des choses. On pourra dire, tel joueur, j'ai fait ça avec lui. Sur un match, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et il s'est passé des choses. Beaucoup de gens ont certainement oublié la Ligue des Champions du PSG 94-95 et même l'année d'après. Mais voilà, et je crois pas qu'il attendait la 85e et la 87e pour faire les changements.
Non.
Seulement si l'autre faisait signe. Voilà. Et si Thierry était bien sur le paperboard pour le noter, parce que faut noter.
Thierry, il a fait signe.
Bon, après il mettait Ronaldinho sur le banc. C'était le truc inverse en fait par rapport au
Star. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut arrêter avec cette légende.
Yessine est là au 32-16. Bonsoir.
Bonsoir Lester, ça va?
Ça va et toi?
Ça va, déçu du match nul, mais ça va.
Tu estimes que le PSG devait gagner ce soir?
Ah, sur la deuxième, clairement. Après, la première, on se fait bouffer et c'est pas la première fois cette saison, puisque PSG Monaco, pareil, qui était notre premier choc en championnat.
J'ai revu le PSG. Aussi,
j'ai revu le même PSG en première mi-temps, c'est-à-dire qui subit, qui fait pas le pressing, qui a du mal à faire le jeu. Après, en deuxième, par contre, on a une belle réaction, mais je pense que ce soir, on a vu toutes les qualités du PSG et tous les problèmes du PSG.
En gros, tu veux dire qu'il vaut mieux pas tomber sur une équipe qui sera capable de gérer ses efforts et son pressing et de maintenir une intensité un peu plus longtemps, parce que si c'est le cas, t'auras pas la deuxième mi-temps du PSG, du coup.
Bah oui, on peut dire ça. Après, pour moi,
presque un peu inquiétant.
Ah, mais c'est inquiétant dans le sens où on passe toujours à côté de notre première mi-temps face aux grosses équipes qui sont capables de mettre de l'intensité, comme tu dis. Et aussi, ce qui est inquiétant pour moi, c'est on n'a pas de vrai neuf devant. Ça s'est vu encore ce soir, où ça dézone beaucoup. Et puis, on manque un peu de verticalité.
T'as trois des meilleurs joueurs du monde. Au final, est-ce que c'est grave d'avoir un 9?
Ah bah, le 9, bien sûr. Regarde City avec Haaland et regarde surtout ce que dit Mbappé et ce qu'a sous-entendu Campos, c'est que le PSG voulait un 9.
Ouais,
c'était le projet. Oui, voilà. Le projet, c'était Mbappé plus un 9.
Mais après, je pense que si on avait un 9 dans cet effectif avec Neymar, Messi et Mbappé, je pense pas qu'il aurait joué, puisque les trois sont obligés de jouer au PSG, comme t'as dit. C'est eux qui décident quand ils sortent, c'est eux qui décident même quand ils rentrent, parfois. Donc, moi je suis déçu de la manière aussi dont on a défendu. On a toujours le même problème.
Ah bah justement, je voulais en parler dans l'évaluation là. Qu'est-ce que tu penses de la défense là, des performances individuelles de chacun? Est-ce que t'as un doute sérieux sur la défense?
Oui, totalement. Bah déjà Ramos doit plus jouer. Il est plus haut niveau. Il est plus haut niveau. L'année dernière, ça s'est pas vu, parce qu'il était tout le temps blessé.
À un moment, il a fait une espèce de passe en retrait à Danilo, là.
Ouais, Danilo, là.
Non, mais Ramos, il est à la ramasse complète.
Mais pourquoi il joue alors? Ramos, c'est pas parce qu'il manque du monde. Ramos, il est titulaire depuis le début de l'année, il joue.
Il voulait recruter Skriniar, par exemple, ou un autre.
Ramos serait sur le banc.
Ah, je pense. Ouais.
Le PSG va retenter de faire venir Skriniar à Noël.
Je pense.
Sachez-le.
Mais moi, je vais te dire. Moi, mon espoir pour le PSG, je vais te dire où je le place. Dans cette saison hyper particulière, qui fait qu'une deuxième saison va commencer à l'intérieur de la saison. Et la deuxième partie de saison, celle où les matchs importants arrivent, donc à partir de janvier, va arriver vraiment dans un contexte totalement différent d'habitude, avec des équipes qui vont être chamboulées. Il va y avoir un mercato, je pense, d'hiver très important et une deuxième saison qui va venir. Et si le PSG prend un défenseur central, et si ça passe à 4 derrière, là, je vais me dire... Pourquoi pas, comme tous les ans. De toute façon, il y a assez de talent dans l'équipe pour qu'on entretienne au moins le pourquoi pas, même si je pense qu'il y a des équipes supérieures au PSG. Mais j'ai cet espoir que cette saison complètement bizarre, là, avec ce mercato et cette nouvelle saison qui démarrera après Noël, il se passe quelque chose.
Juste, je signale, c'est Gatti qui me le signale. Attention, Messi est sorti à la 81e et non à la 87e. Ça change tout dans la prise de décision de Galtier, nous dit-il.
Non, alors c'est pas ça, alors on s'est pas compris.
Non.
Messi est sorti parce qu'il a fait signe.
Oui. Voilà. À la
81e. Et à la 87e, il y a eu le premier vrai changement. Parce que le premier changement, c'est Mendes par Bernat.
Parce qu'il est blessé.
Le deuxième, parce que Messi fait signe.
Voilà.
Donc affolement, Thierry, t'es où, machin.
Et Thierry s'en est pas remis encore.
Ouais, voilà.
Il a dit, mais il
tremble. Le paperboard, il le tenait, ça faisait
tout. Tu sais qu'il est dans le car, apparemment, il se pose la question avec Galtier, à savoir, ouais, t'es sûr que
t'es sûr qu'il est blessé.
Il voulait aussi
le premier vrai changement, c'est 87e. Le premier vrai changement est 87e. Moi, non, mais au-delà de ma blague du soir et tout, je sais pas, t'as un banc quand même, quoi. T'as un effectif, t'as un club qui a plein d'oseilles, plein de joueurs, machin.
C'est vrai.
Tu fais pas ton premier changement à la 87e, c'est quoi la blague?
Daniel,
tu comprends pas le truc.
C'est pas le problème, c'est que c'est, et là où je te rejoins, pas sur plein de trucs sur Galtier, parce que je pense qu'il va réussir à mettre des choses en place, mais n'empêche que sur les changements, en effet. Alors est-ce que c'est,
il n'utilise pas tous les gens d'ailleurs,
mais non, mais c'est surtout qu'il a un effectif
sur le banc, l'homme à 35 millions.
Il a un effectif quand même aujourd'hui sur le banc, tu vois, j'ai sous le nez
l'homme à 35 millions,
il a Bernat, il a Ruiz, il a Soler, il a Sarabia, il a Ikitike.
J'ai peur que pas là, quand même,
après bon, il y a pas mal de blessures millions, alors c'est vrai que le banc comme ça, mais quand t'as Ruiz et Soler, ils ont quand même fait des investissements dans le milieu de terrain avec ces deux joueurs-là. Tiens, tu peux pas dire à Ruiz, tu vas jouer 3 minutes par-ci, par-là, parce que je peux pas sortir les mecs, parce que c'est un match de très haut niveau. Et Soler, tu vas jouer que les matchs de Coupe de France. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que dans la gestion.
Temps, Soler est venu parce que ça arrangeait le business de Valence. Il fallait faire un transfert. Mendes a arrangé l'histoire.
Ouais,
ça faisait plaisir à tout le monde parce qu'il fallait mettre un petit peu de sous à Valence.
Oui.
Et ça a arrangé tout le monde. Et Soler, il est plus tout jeune, même s'il est pas vieux. Et ça lui faisait un beau contrat. Tout le monde est content. Soler, il ira pas chialer. Hein. Valence est très content d'avoir vendu. Voilà. Donc on sait.
Ruiz un peu plus, on est d'accord.
On sait qu'il y a eu.
Oui.
C'est pas une magouille, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Bon, bref, ça arrangeait tout le monde.
En
revanche, Fabien Ruiz, écoute,
Yacine, du coup, c'est quoi ta défense idéale?
Moi, je pense qu'il faudrait passer à 4 derrière, pour mettre un mec en plus au milieu. Ouais. Mais bon, Kimpembe est blessé, donc on n'allait pas voir ça ce soir. Et dans tous les cas, dans ma défense idéale, il n'y a pas Ramos. Mais il faut aussi penser
Donc, il reste que Kimpembe et Marquinhos, alors.
Bah, je pense que ça va être ça. Hein.
Bah oui, ça va être ça.
Le problème, c'est que Marquinhos, en plus, n'est plus du tout à son niveau. Enfin, encore une fois, ce soir, pour moi, le but, il est aussi pour lui. Enfin, les duels aériens, il a du mal à les gérer.
Bah, et là où t'as raison, c'est que je pense que Marquinhos, dans ce rôle-là, qui est un nouveau rôle pour lui, il est squeezé un petit peu des duels, tu vois, ouais, parce qu'il part de l'axe.
Même au parc contre Nice, c'était pareil.
Enfin, ouais, c'est
le but de la bande, c'est Marquis, il s'est pas appréhendé à ballon. Moi, je l'adore ce joueur, mais ça fait un petit moment déjà qu'il est plus haut niveau. Ça a commencé l'année dernière, je trouve. Et pareil, les buts sur centre, c'est incroyable au PSG. Enfin, toutes les équipes marquent sur centre contre nous.
Oui, mais parce que ça, encore une fois, c'est un problème d'agressivité. Je sais pas si t'as joué au football, que ce soit à n'importe quel niveau, dans tous les cas, pour récupérer, pour gagner un duel, c'est juste de l'agressivité, hein, dans un premier temps. Il faut s'accrocher. Moi, j'ai pas l'impression que Danilo a ça quand il joue derrière en défense centrale. Ramos, il l'avait, mais il l'a perdu. Et Marquinhos, encore une fois, il est tellement déchargé de certaines fonctions dans ce rôle-là de un petit peu de libéraux à l'ancienne, que il se contente juste. Et je sais pas si vous avez le même constat que moi, c'est que il vient s'intercaler dans le milieu de terrain pour ressortir les ballons. Alors, il est capable de le faire. Attention, hein, c'est un bon joueur, hein, techniquement, est capable de. Mais bon, se retourner, c'est un peu plus dur, mais il vient participer au jeu et il se contente de ça dans les premières relances. Mais derrière, attends, quand tu prends des courses vers l'avant et des mecs qui vont vite et que Ramos peut pas gérer ou Danilo peut pas gérer, il va falloir que lui s'y mette aussi. Et il est toujours un petit peu en retard. Et moi, ça aussi, c'est dérangeant. T'es en train de perdre avec ce schéma-là. T'es aussi en train de perdre l'importance de Marquinhos qu'il avait dans une défense à 4.
Yacine, merci beaucoup.
Non, de rien.
Bonne soirée, à très bientôt dans l'after. 23h53, les gars, on va conclure avec un petit mot sur Benfica quand même, parce qu'on a beaucoup de supporters de ouais. Benfica à l'écoute de l'after. Ludovic est là, bonsoir Ludovic.
Recuperação da bola de Rafa, esta na ala esquerda do campo, entra para dentro, faz o passo para Enzo Fernandes, Enzo Finta, olha para frente,
ele lá, área, Ludovic, e gol! Très bien.
Ah, je ne savais pas qu'on avait Radio Alpha avec nous.
Estádio da Luz, com o melhor comentador. Benfica 1, Paris Saint-Germain 1. À vous les studios, Gilbert.
Bon, sinon, tu es content du match de Benfica?
Oh là là, alors moi je suis soulagé, Gilbert. Bonsoir.
Ah, pourquoi? Tu te voyais prendre une volée?
Bonsoir tout le monde. J'en avais parlé à Max parce que j'ai appelé plein de fois et tout. Bah ouais, moi tu vois, t'es binational, français, tu sais ce que c'est le PSG. J'avais très très peur de quand même de prendre une déculottée parce que la vitesse dans la profondeur, Mbappé il est capable de tout. Je suis soulagé.
Puis mais là, franchement, je suis très étonné de parce que l'avis que tu viens d'émettre là, il y a beaucoup de gens qui disaient comme ça. Alors est-ce que c'est quand on est supporter, on appréhende un peu, on veut féticher un peu tout ça, mais si tu vois jouer ton équipe depuis le début de l'année, tu vois jouer le PSG. Je veux dire, envisager un match nul, enfin, c'était pas très compliqué. C'est-à-dire, moi, tu me demandais de parier sur le match au coup d'envoi, j'aurais misé match nul et il y a très peu de cas où j'aurais même misé victoire du PSG ce soir. Autant tu me le demandes pour mardi prochain au parc, je suis pas sûr de te dire la même chose, mais pour le match à Lisbonne, mais vraiment, bon, en plus, il se trouve qu'on a fait les paris avec Jérôme, donc les gens peuvent aller voir, mais la victoire du PSG, je l'envisageais très peu.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas, mais je comprends pas comment tu peux flipper de prendre une raclée. Tu la vois jouer ton équipe, c'est vraiment une belle équipe, quoi.
Oui, mais justement, parce que moi, j'étais post-formé à l'after foot, Daniel, tu vois. Donc, je connais le football, mais mon côté supporter, j'ai tellement souffert avec mon club. Je souffre encore, j'ai souffert tout le match, sincèrement. Après, pendant le match, j'ai bien vu que ça allait, mais en avant-match. Et en plus, t'as ce côté, je te dis, ça aurait été le Bayern Munich, on aurait pris une tôle, ça m'aurait fait moins grave, mais tu vois, en tant qu'aussi, français, je suis français, tout ça, le Paris Saint-Germain, tu vois, il y a ce côté binational et tout. J'avais vraiment pas envie et j'avais un peu peur.
Ouais, donc c'était une trouille qui était pas vraiment rationnelle.
Exactement.
Ok, je comprends. Fait,
c'est mon côté un peu la subjectivité du supporter.
Ouais, voilà, ok, d'accord.
Et puis sincèrement, en plus j'ai envoyé un mail, plusieurs mails à Gilbert. Gilbert, il faut absolument qu'on fasse un dossier spécial Benfica. Je t'ai envoyé un gros mail et tout. Parce que Daniel, on revient de tellement loin avec Benfica, avec toutes les affaires qui se sont passées. Et On a
on va te filer le mail de Nico Villas.
Ah, c'est toi, c'est toi, Gilbert. C'est le de mail de. Que tu me parlais, tu me disais, putain, mais il casse-couille, lui, avec. c'était lui, en fait.
Non, c'est pas lui.
Si, 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 arrête.
Déjà, je n'emploie pas ce genre d'expression que tu viens d'employer. Encore un gros mot, c'est insupportable.
Pardon, non, pardon.
J'ai appris avec Daniel en même temps, donc c'est normal.
Oui, c'est pas faux.
J'aimerais dire un petit mot sur Benfica, si vous le voulez. Et en fin d'intervention, Gilbert, est-ce que tu m'accorderais un petit bonus de temps pour adresser un message à l'after et à Daniel?
Vas-y, on arrive au bout, donc il faut que tu te dépêches.
Bon, je me dépêche. En gros, très content de la performance de Benfica. La première mi-temps, vraiment bien. La deuxième, on a totalement baissé de rythme. Il y a eu de la fatigue. Ça s'est déjà vu en championnat. Il faut savoir que Roger Schmidt, il a son 11 titulaire et il fait très peu de changements. Mmh. Donc, on avait déjà vu une certaine fatigue. Il y a le petit Enzo Fernandez, je sais que vous en avez un peu pas mal parlé.
C'est pas mal, hein. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe.
Ouais, sauf que lui, tu vois, il est presque en fin de saison parce qu'il est, comme il était en Amérique du Sud, il n'a pas eu de coupure. Neres, on sent aussi que ça faiblit, mais bon, vu sa situation Shakhtar, les derniers mois sans compétition. Draxler, pour l'instant, il a manque de rythme, il a rien apporté sur sa rentrée. Par contre, il faut vraiment, au Portugal, on en parle de plus en plus, il y a ce petit jeune, le défenseur central de 18 ans, António Silva. On connaît une hécatombe au niveau de nos défenseurs centraux. Ils sont tous blessés. Il est monté de l'équipe B. Et le gars, il a une poignée de matchs. Il a fait un super match à Turin. Là, ce soir, franchement, pour un jeune, deuxième match de Coupe d'Europe.
Ouais, il avait du client, là.
Ça, c'était super. Concernant, je voudrais revenir sur un petit point tactique par rapport à Roger Schmidt, qui avait déclaré on était chez nous, et donc on allait essayer de jouer notre jeu, mais face au PSG en étant précautionneux. Et donc ça a un petit peu fait réagir au Portugal et tout. Parce que moi, je voulais savoir, c'était le côté tactique, est-ce qu'on allait jouer aussi haut face au PSG qu'en championnat? On a vu que non. Et surtout, là où c'est significatif, c'est sur le but de Messi. D'où, alors il met un but splendide et tout, mais d'où part l'action en fait? L'action, elle part d'une perte de balle de Grimaldo, donc le latéral gauche de Benfica. Et en fait, c'est lors de sa première montée. Lui, il ne sait pas défendre. Mais c'est un super contre-attaquant qui a une très belle frappe. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu offensivement du côté
de Benfica. Tu sais quoi, Ludovic, on va se donner rendez-vous mardi prochain pour le retour. Parce que je vois que de toute façon, sur Benfica, si je ne t'arrête pas, tu vas me faire une heure. Là.
Comme toujours, c'est la passion, Gilbert.
C'est très bien, la passion.
Mais il faut payer Daniel
tous.
Et Gilbert, donc il faut envoyer la pub.
Et puis, minuit. Je te remercie, Ludovic. Le message pour l'after, garde-le pour la prochaine fois.
Mais Ludo, on t'envoie le numéro de... Demande à Max le numéro de Nico Villas, comme ça au moins tu échangeras.
Jérôme, merci d'être venu ce soir,
merci
comme d'habitude. Demain, 18h, tu seras là, évidemment, avec...
On est là, on va débriefer.
Exactement.
Pareil.
Ouais. À demain soir, merci. On retourne sans flamme, 18h. Nous, dans un instant, on retrouve les drôles de l'âme pour tous les autres matchs de la soirée. Chelsea-Milan, notamment, le Borussia Dortmund qui gagne. Vu ce qu'il est sur le banc, t'as l'impression qu'il était en civil, genre en tenue, tu sais, des contracts.
Prêt à partir.
Genre, j'ai déjà les valises dans le coffre, je me barre. Allez, à tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit et demi avec les drôles de l'âme.
RMC jusqu'à minuit 30,
l'after foot.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 2, Daniel Riolo est là et les drôles de l'âme nous rejoignent. Jingle drôles de l'âme, s'il vous plaît. Et oui, ils sont là, notamment Fred Hermel.
What were your thoughts about his performance?
Fredo, bonsoir. Fred Hermel est-il parmi nous?
Bilan, Fredo, bilan, tout de suite, bilan.
Un autre, voilà, ça c'est toujours sympa quand tu dis bonsoir en diable et qu'on n'entend pas. Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, 2 points sur 2, 3,5 sur 5 sur les deux journées, 1 point d'avance.
Ça, les prévisions. Ça, c'est du bilan, ça.
Voilà, c'est carré. Yoann Crochet, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. 1 sur 2 ce soir, donc 3 sur 4 en Ligue des Champions.
Et Fred Hermel est bel et bien là. Salut Fredo.
Hola chicos, on m'entend là?
Très bien.
Non, mais c'est moi, c'est heureusement qu'il y a le Real. 1 sur 4.
C'est la loose, comme dirait Julien.
Et vous savez que comme on en est au bilan et que aucun de vous ne représente ce pays, je ne crois pas qu'on en ait parlé depuis le début de la saison, mais le meilleur début de saison en Ligue des Champions, c'est pas Bruges.
Oui, zéro but encaissé.
C'est incroyable ce qu'ils font dans ce groupe.
Et puis ils ont bien joué. Moi, j'ai vu le match hier soir contre l'Atlético, c'était fantastique. Ouais, on l'a
peu évoqué, mais c'est quand même un groupe avec Porto, Leverkusen et l'Atlético. L'Atlético qui est dernier à la ramasse dans ce groupe. Et l'équipe, la seule équipe, ils ont 9 points, les autres ont tous 3-3-3.
Ils sont qualifiés déjà, en fait.
Ouais, mais c'est marquant, je trouve, pour cette équipe d'avoir un tel bilan.
C'est d'autant plus marquant qu'ils ont perdu de Ketteler lors de l'intersaison et que Noah Lang a été blessé pendant un long moment. Je crois qu'il n'est même pas rentré hier. Pardon. Mais voilà.
Des dépendances à l'un de vous là pour avoir un bilan là-dessus un jour.
Moi, je peux faire un petit truc simplement, c'est que l'attaquant vedette Ferran Djungla. C'est un mec qui était c'est un catalan qui était Barça B, Espagnol B, etc., qui est arrivé cet été. On se dit tu vois, ça en gros un peu c'est les restes de qu'on veut pas en Liga, quoi. Et le mec hier, c'est un but, une passe décisive, et il est fantastique.
Parfois avec les restes, tu peux faire des trucs, hein.
Ben oui, à tel point que en Espagne on se dit, mais franchement, vu les problèmes qu'a la sélection espagnole pour marquer des buts, et si Luis Enrique pense à Djungla.
À ce point-là,
non, mais il est très bon.
Bon, les gars, prenons les choses dans l'ordre comme de coutume, c'est important. Démarrons par le groupe du PSG, la Juve, Bâle, Maccabi, Haïfa, Rabiot,
il semble-t-il
a brillé de mille feux, Johan, ce soir.
Je m'y attendais un peu, je dois dire. Il a été bon, il a été décisif, c'est pas si souvent que ça, malheureusement.
Cette année, c'est bouclé, c'est fait. Il a fait son gros match, maintenant... Voilà.
Non, mais c'était vraiment un match pas si évident, parce que la Juve l'a pas vraiment maîtrisé totalement, et c'est en ça que les joueurs étaient frustrés à la fin du match, Allegri aussi. C'est que à 2-0, ce match-là, tu dois continuer à attaquer, à les mettre en danger, etc. Et ce problème de mentalité qu'on voit souvent à la Juve ces dernières années, où à 2-0, tu attends, quoi. Tu te replies en défense et les autres prennent confiance. Alors il y a aussi un truc, c'est qu'il y a des joueurs qui sont entrés et qui ont été très très bons. Il faut savoir quand même que le Maccabi fait 3 poteaux dans le match. Alors c'est essentiellement sur des frappes de loin, mais quand même ça compte. Et à 2-1, très sincèrement, il y a des minutes après le but du 2-1, quand le Maccabi revient un but, où tu te dis on est plus proche du 2-2 que du 3-1. Malgré tout, la Juve en transition ensuite a fait très mal, parce que elle a un joueur extraordinaire, mais ça on le découvre pas maintenant, mais en qualité de passe, en vision du jeu, qui est André Di Maria. Et puis tu as un Vlahovic qui, quand il part en profondeur, entre la vitesse et le gabarit, ça devient très difficile de revenir sur lui, de le bouger dans le duel à l'épaule, etc. Donc Vlahovic a raté des occasions, il était pas content à la fin du match, il dit oui j'ai marqué mais je suis pas content. Quand on a un joueur comme Di Maria qui me fait autant de belles passes, je dois être plus concret devant le but, plus décisif, etc. Donc victoire, oui, pas forcément très maîtrisée, on va dire, mais je pense très sincèrement, la Juve aujourd'hui, elle n'est pas dans une position où elle peut faire la fine bouche. C'est-à-dire que là, il faut gagner. Là, tu es dans l'urgence. Donc, il faut gagner. Il faudra gagner en Israël aussi. On verra comment ça va se passer. Mais là, on n'est plus à.
Plus chaud,
t'aurais pu mieux jouer, etc.
Non,
je pense pas. Ils ne se sont pas baladés ce soir. Donc, je pense qu'ils ne se baladeront pas là-bas. Et très sincèrement. Il re-signe sans problème pour le même type de match, pas totalement maîtrisé. On n'en est pas là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est 6 points au bout de 4 journées, parce que sinon, tu sais que t'es cuit.
Bon, voilà pour ce match-là. Je sais pas si t'as fait le tour là-dessus. C'est pas le match.
Non, c'est pas le match le plus fou de la soirée.
Déjà, c'est important qu'ils prennent les points, parce que s'ils veulent croire à la qualif.
Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a que ça qui compte, quoi.
Oui, Maccabi à 0.
Eux, de toute façon, ce qu'ils doivent espérer maintenant, c'est une forme de logique, on va dire. Ils vont gagner à Haïfa, le PSG bat Benfica, et après, ils se jouent la finale contre Benfica, mais à Lisbonne.
Ouais.
C'est ça, hein. C'est le calcul, en fait.
Ouais, et puis je suis même pas sûr que ça suffise, mais... Disons que dans le jeu à 3, si ça se transforme en jeu à 3, il y a des clubs qui vont perdre des plumes, mais ils n'ont pas grand espoir non plus, très sincèrement.
Après, ils vont recevoir le PSG. Ouais. Non, c'est pas fini, mais ça, c'est pas simple pour eux quand même. Là.
Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Voilà. Salut Ju. Tiens, j'ai oublié de vous dire qu'on était aussi sur Twitch comme tous les soirs. Je vous le signale.
Tous les soirs ou c'est.
Alors, vous ne verrez pas les droits de l'âme, parce qu'évidemment, les droits de l'âme sont toujours sur le terrain.
Que soir de Coupe d'Europe.
Oui, comme tous les soirs de Coupe d'Europe.
Ah, voilà.
Ce qui est le cas ce soir, en l'occurrence. Alors, allons-y, les gars, si vous le voulez bien, pour le match Chelsea-Milan, qui était, on va dire, l'autre grosse affiche du soir. Mon petit Julien, est-ce qu'on peut dire que Chelsea a donné une petite leçon à Milan ?
Ouais, en tout cas, une leçon d'efficacité, une leçon sur coup de pied arrêté aussi, parce que j'ai trouvé cette équipe du Milan très décevante sur coup de pied arrêté. Alors, peut-être qu'il manque de taille, Tomori, Kalulu, mais sur le premier but, par exemple, Thiago Silva, avant le corner qui amène le but de Fofana, déjà était tout seul de la tête sur l'arrêt de Tarusano, et puis après, bien sûr, c'est encore lui qui fait la tête sur l'ouverture du score. À partir de là, c'était plus facile après, mais c'est vrai que c'était une équipe de Chelsea que j'ai trouvé vraiment solide, plus que fantastique avec le ballon, parce qu'il n'y a pas eu non plus de choses incroyables dans la circulation de balles ou dans les occasions qu'ils ont pu se créer, dans le mouvement, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont été très solides défensivement déjà. Et après, ils ont été très efficaces dans les occasions qu'ils ont eues, en profitant, encore une fois, des erreurs du Milan. Tomori sur le but d'Aubameyang, jamais il doit se faire prendre comme ça sur le centre de Rich James. Kalulu sur le but de Rich James, Balotouré sur le but de Rich James aussi. Je sais pas comment t'arrives à laisser Sterling décaler Rich James comme ça dans tes 6 mètres. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs défensives.
Surtout que
Milan.
T'as vu Julien, Tomori lui indique d'aller tout de suite sur James qui se projette. Et en fait, il y va pas du tout.
Mais même devant ta télé, n'importe qui au stade devant ta télé, tu pouvais voir que c'était ce que Sterling allait faire. Donc c'est vrai qu'à un moment, les absences, je pense, notamment Théo Hernandez, qui est bien plus fort que Balotouré, ont aussi fait que ce Milan ce soir, Chelsea était à un niveau, je pense, trop élevé pour eux.
Et bon. Sur le banc à Milan ce soir, il y a le fils caché de Roland.
Ouais, oui, Kubis.
Bon. Andrei Kubis.
Sans le R.
Ah. Parce que tu sais qu'à Olympiakos, c'est aussi un Courbelis.
Ah.
Ou Palatinaikos, je sais plus.
Un autre fils caché de Roland.
Oui, surtout qu'il a joué en Grèce. Alors là, encore plus.
Et à Milan, on sait qu'il a eu des liens. À Milan, il avait des amis.
Juste, si on analyse un peu les buts.
C'est un Kubis, Andrei Kubis.
Johan, on voit que Tatarusanu, c'est pas Maignan quand même. Hein.
Ouais, alors honnêtement, ce soir, c'est pas trop sur lui que j'irais. Disons qu'il fait pas d'exploit. Ouais. Là où Mike Maignan serait capable de les faire, notamment les arrêts sur sa ligne.
Enfin bon, les frappes petit côté, tout ça sous la barre. En plus, il fait 2m50, Tatarusanu. Enfin bon.
Là, au premier poteau, les puissantes aussi. C'est pas si simple, mais c'est vrai que c'est ce que les gardiens disent toujours. Hein, prendre un but au premier poteau, c'est pour eux, c'est un peu la honte, quoi. Mais honnêtement, j'irais plutôt chercher du côté des latéraux. Julien a commencé à en parler, mais. Tu vois que Dest et Balotouré pour jouer à Empoli, ça va, mais pour jouer à Stamford Bridge, c'est pas au point. Et tu remplaces pas Calabria et Hernandez comme ça. Alors, évidemment que Pioli, ce soir en conf de presse, il dit « Moi, je refuse de parler des individualités », parce qu'on lui a posé des questions sur Balotouré, sur Dest, sur De Ketelaere, qui a été bien trop timide aussi. Il a dit « Non, moi, je parle pas de... Il n'y a pas d'individualité, on a été tous nuls, on n'a pas été bons. » Et à partir de là, ça n'a rien de dire « Tel joueur ou tel joueur, il est en dessous. » Ils ont tous été en dessous, on a tous été en dessous. Donc lui, il voulait pas parler d'individualité, mais il voulait pas parler non plus des absents. Ça, à Sky, je l'écoutais, on a commencé à lui dire « Ouais, bon, peut-être qu'avec Théo Hernandez, peut-être qu'avec Calabria, peut-être qu'avec ci et ça. » Il dit « Non, c'est pas un problème d'absence, c'est un problème de jeu, un problème de mentalité. On n'a pas été bon, on n'a pas fait ce qu'on faisait d'habitude, ce qui fait notre force, l'agressivité, etc. L'attention, la concentration, etc. » Il a été assez déçu là-dessus. Mais je suis d'accord avec Julien, Chelsea a pas été ultra impressionnant, enfin même pas impressionnant du tout en fait, mais Milan a été vraiment vraiment en dessous, et donc Chelsea avait même pas besoin d'être impressionnant pour battre ce Milan là. Milan finalement, ils ont deux occasions, ils en ont une vraie juste avant la mi-temps où tu te dis si De Ketelaere ou si Krunic met la frappe à 6 mètres du but,
Krunic va marquer, ouais.
Bah peut-être. Ouais, Krunic, c'est abusé. Même De Ketelaere, hein, franchement, vu le talent du joueur, c'est un peu abusé. Mais tu te dis peut-être que là, ça peut calmer un peu, refroidir un peu l'ambiance, calmer un peu Chelsea qui finissait assez fort. Mais bon, à part ça, il y a pas trop eu match, quoi. Donc, puis quand tu vois Pioli qui à la 65e sort de Ketelaere, à la 71e sort Giroud, Bennacer et Lao, tu sais qu'il y a un match contre la Juve ce week-end. Bon, t'as vite compris qu'il avait abandonné et qu'il voulait passer à autre chose et déjà se projeter sur le match de Turin ce week-end.
Un truc à la rajouter sur Chelsea, Julien, vas-y, oui.
Ouais, c'est la blessure de Wesley Fofana, malheureusement, qui on attendra demain de savoir les résultats de l'IRM qui va passer. Il est sorti en pleurs. C'est son genou encore, quand on sait qu'il a eu une grave blessure au genou il n'y a pas si longtemps que ça. Graham Potter, après le match, il ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore les examens de demain. Mais ils sont très inquiets à Chelsea, très très inquiets. Donc vraiment, on espère pour Wesley que.
On lui a révélé
c'est pas la mauvaise. Ouais, exactement. Et puis en plus, il a marqué le but ce soir. Il avait été très bon contre Rafael Leao, notamment jusqu'à sa blessure. Et c'est vrai que juste de le voir sortir en pleurant, c'est pas bon signe quand même.
Et Julien, tu sais, la dernière fois que j'ai vu un joueur faire le même type d'appui où t'as l'impression qu'il se passe rien, tu vois pas vraiment de torsion, etc., et où c'est grave finalement après les examens, c'est Zaniolo avec l'équipe d'Italie, ouais, où il avait fait un appui exactement du même type. Et c'était catastrophique derrière. Donc j'espère que ça ne sera pas ça pour oui, Fofana, mais inquiétant. Ouais.
Les plus grandes blessures sont celles qui sont tout seules d'ailleurs.
Polo reste sage dans cette histoire, mais c'est tout de même Salzbourg, une de ses dépendances, qui est en tête de la poule.
Oui, mais alors j'ai pas vu la rencontre, donc je peux pas te le.
Tu as battu le Dynamo Zagreb à 0.
Ouais, c'était assez compliqué.
Un groupe d'ailleurs super serré en fait.
Ouais, c'est un groupe très serré. Et je les ai vus quelques fois cette saison. Salzbourg, le problème c'est qu'ils ont perdu énormément de force vie cet été. Donc je sais pas trop ce que ça va donner.
En tout cas, le parcours, match, ils sont premiers de la poule avec un point d'avance sur le Chelsea et Milan.
Ouais, mais il y a le match retour à Zagreb qui à mon avis va pas être évident. Donc on verra. Ils peuvent finir premier comme quatrième. Je pense qu'il y a quand même Chelsea et Milan sont mieux armés pour passer. Quoi.
On va parler du Real dans quelques instants, mais commençons par Séville Dortmund. Alors Fred, donc Lopetegui savait avant le match qu'il était viré.
Alors ce que j'ai vu ce soir, pourtant je suis un vieux garçon maintenant, puis un vieil homme même, j'en ai vu des matchs, j'en ai vu des départs d'entraîneurs, mais ce que j'ai vu ce soir, je ne l'ai jamais vu.
Superbe.
En fait, Lopetegui sait qu'il est viré ce soir, il sait que le club est en train de négocier avec Sampaoli, il sait depuis lundi soir en gros qu'il est viré. Bon, comme c'est un bon mec, il accepte de faire le boulot. On lui a dit directement ou pas, mais enfin, il le sait. Donc, il dirige le match quand même, qui est un calvaire. Séville perd 4-1, mais c'est tout à fait logique. Les joueurs essayent un petit peu, mais tu sens que c'est une équipe totalement à la dérive. Vous savez, cette équipe, c'est les 4 derniers matchs à domicile, donc quand on suit là, c'est 4 défaites, 13 buts encaissés, 1 marqué. Quand t'es Séville quand même, hein. C'est quand même du délire. Bref, donc Lopetegui, à la fin, il salue l'entraîneur adverse et tout, il regarde un peu le stade, il lance quelques applaudissements, il y a des larmes qui commencent à monter, il s'en va dans le vestiaire, et là, Monchi, Ramon Rodriguez, donc le directeur sportif, qui est quand même en gros le responsable de qu'il se fasse virer, qui est le mec qui est en train de négocier avec Sampaoli, va rechercher Lopetegui, l'amène sur la pelouse pour qu'il reçoive une ovation du public. Le public a été merveilleux. Lui a fait le geste de dire pardon parce que voilà.
Oui, parce que tu prends quand même 4-1 là, c'est bon.
Oui, voilà. Puis de toute façon, la saison elle est catastrophique, mais je l'ai expliqué plein de fois dans l'after, c'est pas de sa faute. Il n'est pas le premier responsable. Le premier responsable, c'est Monchi qui a vendu des grands joueurs et qui a mal recruté. Et donc le public.
Ah bah Monchi, on l'a toujours vendu comme le directeur sportif.
Bah, oui, mais sauf qu'on en parlait, avec Julien hier soir, lundi soir, tu te rappelles, hein, Julien.
Oui.
La planification a été catastrophique. L'équipe est faible. Et là l'ensemble du stade, et je peux vous dire que Sanchez Pizjuan, quand ça fait du bruit, ça fait du bruit, et c'est des gens qui, quand ils sont pas contents, ça s'entend. Et là ils ont fait beaucoup de bruit, mais pour applaudir Lopetegui et pour remercier Lopetegui de ce qu'il
a fait. Mais si l'équipe est mal construite, elle a eu des problèmes, mal recrutée, je veux dire, tu changes d'entraîneur, tu mets Sampaoli, mais ça va changer quoi?
Mais ça va rien changer. Mais là où ce que j'aime pas, c'est comment Monchi, qui est le responsable de ce qui se passe, il veut être le mec sympa du soir, quoi. En gros, allez, je vais chercher l'entraîneur, je vais le montrer à tout le monde et tout. Peut-être que Lopetegui, il a peut-être simplement envie
de se faire. Ouais, ils font juste péter un fusible, quoi.
Bah, complètement. Il y a un gros fusible. Donc, mais la scène, elle est sur Alice, quoi. Enfin, je veux dire, le mec qui vire Lopetegui va le chercher pour qu'il se fasse applaudir par tout le monde. Enfin, bref, tout ça est surréaliste. Et je peux vous annoncer que les prochaines semaines à Séville vont être catastrophiques parce que quand tu fais sauter un fusible, eh ben, quand tu fais sauter une protection, ben, il n'y a plus de protection. Et les prochains qu'on va regarder, c'est le président Pepe Castro et c'est bien entendu Monchi.
Président Pépé Castro, je ne connaissais pas son nom. Tiens.
Il s'appelle Rocher Castro, donc José, son surnom, c'est Pépé.
Je me rends compte qu'on n'a plus besoin de Johan Crochet, il n'y a plus d'Italie, on a fait le tour.
J'écoute les copains, moi.
Ouais, tu restes, alors très bien.
Très bon esprit.
Gilbert, Lopetegui, c'est la priorité de Wolverhampton pour remplacer Bruno Lage. Alors,
ils ne veulent pas portugais, eux.
Là, il va changer de climat. Séville, là, ça va lui faire drôle, quand même.
Wolverhampton, il fait noir à 14h, non?
Oui, tu disais tonton Georges, qu'est-ce qu'il...
Tonton Georges, bah c'est son club. Wolverhampton aussi, ouais. Lopetegui, c'est aussi son client. Donc je pense tonton Georges va faire en sorte que ça se passe. Il le voulait déjà avant qu'il aille à Séville. Donc là, ça pourrait se faire. Après, je sais pas pourquoi il irait à Wolverhampton, à part le fait que tonton Georges lui dise de le faire, parce que pour l'instant c'est un traquenard. Mais il y a quand même des bons joueurs là-bas, même s'ils sont tous portugais, il y a des bons joueurs. Mais ça lui ferait bizarre quand même de passer de la Ligue des Champions et même avec Séville et même au cœur d'un début de saison compliqué.
Le mec, après ce qui s'est passé, il va pas dire tiens, je vais prendre 6 mois pour me reposer.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Il va retourner.
Il a l'habitude de prendre des claques dans la gueule. Il faut rappeler quand même Lopetegui qui avait été viré en tant que sélectionneur d'Espagne 2 jours avant un mondial quand même. Pour aller au Real et au Real, il se fait virer au bout de 4 mois. Il a l'habitude des grandes claques dans la gueule. Mais moi, je comprendrais que Lopetegui ne reprenne pas un club tout de suite parce que là, émotionnellement et humainement, ces dernières semaines ont été terribles pour lui.
Ouais, en plus, je suis pas sûr que son portefeuille pleure.
Non, ça va.
Alors,
le téléphone pleure, mais pas le portefeuille.
Le portefeuille pleure.
Le Borussia Dortmund, mon cher Polo, c'est une démonstration.
Ah, quelque chose de
facile.
C'était facile. Je dirais pas ça comme ça. Il y a plusieurs points très très positifs évidemment au classement. Une fois de plus, Terzic a densifié son milieu de terrain, ce qui me semble une opportunité et une flèche de plus à l'arc tactique du coach du Borussia Dortmund. Ils avaient déjà fait ça. Ça avait failli marcher contre Manchester City. Moi, ce qui me plaît ce soir, c'était évidemment, et donc tu joues en contre évidemment. N'oublions pas que Moukoko avait été choisi donc à 17 ans devant à la place d'Anthony Modeste, où on jouait vraiment les contres. Il y avait Adeyemi, 19 ans, et puis bon, il y a quand même un Anglais qui s'appelle Bellingham qui est monstrueux pendant cette rencontre, donc ça fait du bien. Le problème, c'est que tu mets 3-0 à la mi-temps et tu autorises pendant une vingtaine de minutes Séville à y croire, parce que en gros Dortmund n'a pas encore la stabilité défensive qu'ils ont besoin, même si c'est mieux par rapport aux années passées. Nico Schlotterbeck, faut aussi qu'ils comprennent lorsqu'il est en équipe nationale d'Allemagne ou au Borussia Dortmund qu'il n'est plus à Fribourg, parce que la façon dont il marque El Nesyri, c'est quand même pas extraordinaire sur le 3-1. Maintenant évidemment sur l'ensemble de la rencontre il y a des plus de points positifs que négatifs, donc ça peut donner un espoir sur l'ensemble de la saison, voir la marge de progression énorme du BVB qui reste. N'oublions pas que c'est une équipe à prime, il manque du monde quand même. Même Maier, c'est quand même le gardien B, chez Kobel, qui est revenu là sur le banc mais qui n'est pas encore titulaire. Et puis ça prépare un super match ce week-end entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.
Parce que 18h30 samedi.
Voilà, c'est ça, le top speed. Comme ça va être, on l'espère, extraordinaire parce que, voilà.
Le top speed, on dit pas le classiqueur.
Top speed. Non. Dans le classiqueur, j'aurais beaucoup de choses à dire.
Le match au top.
On parle beaucoup en Espagne de Bellingham.
Ben oui, c'est normal. Mais je pense qu'on en parle beaucoup en Angleterre aussi. Je pense que si la presse italienne s'intéresse, il est monstrueux, Bellingham. Donc c'est vraiment capitaine ce soir à 19. c'est vrai. Mais mais il est monstrueux. Il a 19 ans. Enfin, moi, c'est les trucs quand même qui me frappent. C'est un milieu de terrain. Tu vois, c'est pas un ailier. Le mec, il bouffe tout le monde. C'est un box to box extraordinaire parce que tu vois comment il vient défendre. Évidemment, il fait encore des erreurs, mais il a des compas monstrueux. C'est lui qui fait la passe, comme il avait fait la passe ce week-end à Julian Brandt aussi, qui est dans une bonne passe en ce moment pour l'ouverture du score à Cologne. Mais non, c'est une vraie plus-value pour le Borussia Dortmund.
Est-ce que c'est un intérêt de parler de City qui a éclaté Copenhague, Julien?
Juste pour parler d'Erling Haaland, qui a joué 45 minutes, qui a marqué 2 buts encore, donc ça fait 28 en 22 matchs de
Ligue des Champions.
Il a touché le ballon 11 fois, donc c'est un but toutes les 5,5 touches de balle, si vous voulez. Il a marqué sur sa première touche de balle.
On est sûr qu'il s'amuse encore.
Bah, je sais pas, donc là,
il est content, lui.
Ouais, il est content. Alors, c'était marrant parce qu'il a eu le ballon du triplé contre Manchester United. Emerick Laporte, comme tous les autres joueurs de City, ont signé le ballon. Le sien et celui de Foden, d'ailleurs. Et Emerick Laporte a marqué « J'ai signé plus de ballons pour tes triplés que de contrats dans ma carrière », ce qui est vrai en plus, tellement il marque de triplés. Mais là, il n'y avait pas de triplé en Ligue des Champions parce qu'il est sorti à la pause, ce qui était prévu avant la rencontre déjà par Pep Guardiola. Mais cette équipe de City est juste... Bah, Copenhague, c'est nul quand même. Mais bon, cette équipe de City, c'est quand même fantastique et Haaland est fantastique.
Alors, avant de te laisser, Julien, quand même, tu nous as tenu en haleine avec le Wagata Christie, la Wagata Christie Story. Sachez quand même que hier, la justice britannique a condamné Rebecca Vardy à verser 1,5 million de livres à Colin Rooney, suite à la fameuse histoire qui ne vous a pas échappé, bien sûr. Madame Vardy qui disait du mal de Madame Rooney.
Elle n'avait pas été gentille.
Voilà, 1,5 million de livres.
Je sentais que Colin, elle était sympa comme ça.
Colin, elle n'a rien lâché. Hein.
Ah oui.
Elle a rien lâché. Ouais, mais c'est Rebecca hein, qu'elle est la chercher, qui a voulu
la gentille de l'histoire, Colline. Hein.
Et les Anglais disent que
tu pourrais 1,5 million.
Bah oui, c'est pas mal.
Fais attention, crêper le chignon.
Les Anglais disent que.
Passe plus, Fredo.
Pardon. Alors que les Vardy. On va expliquer pour les jeunes. C'est une vieille expression française, crêper le chignon.
Oui, mais ça ne se dit plus.
On peut plus.
Trop tard, Fred. Trop tard.
Ça ne se dit plus. Là, là, t'es.
J'étais heureux de vous connaître, les amis.
Oui, Julien, vas-y.
Non, les Anglais, juste pour finir, parlent même de la maison au Portugal de la famille Vardy qu'ils devraient peut-être vendre pour pouvoir payer justement et les frais d'avocat, ce que la raconte à elle. Voilà. Plus
Vardy, il a une carrière, c'est pas un train de patin non plus.
Non, mais voilà, après, si t'es Jamie et que l'autre, elle t'a affiché devant tout le monde comme ça, qu'en plus, elle a perdu le procès, qu'elle avait pas besoin d'aller chercher et qu'elle a cherché quand même, et qu'en plus, tu dois vendre la villa au Portugal, tu. Ouais.
Franchement, tout ça pour 3-4 potes.
Ça peut faire quelques engueulades à la maison.
Tout ça pour 2-3 potes.
C'est sûr qu'elle allait perdre en plus. C'était tellement sûr qu'elle allait perdre.
Merci Julien, bonne soirée.
Coupe. Merci les gars, ciao.
Brushing,
le Real, Fredo, qui bat le Shakhtar.
Ils ont des vrais problèmes.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match?
Bah, que le Real a.
T'en as pas marre de voir des Real Shakhtar, toi?
Bah, alors, franchement, ce soir, le Shakhtar, parce que Dieu sait que le Shakhtar, ces dernières années, a bien emmerdé le Real, mais ce soir, c'était d'une faiblesse absolue, quoi. Le Real gagne 2-1, mais parce que, bon, ils ont pas forcé, quoi. Mais sincèrement, le Shakhtar, c'était vraiment très, très faible ce soir. Leur gardien est catastrophique. Et dans la relance, c'était.
Ah oui, il y a plus le célèbre Piatov.
Piatov, c'est fini, quand même. Ah ouais. Le mec, il a joué jusqu'à 55 ans.
Et ce qui s'est passé là, c'est que. Non, c'était pas celui-là ce soir. C'était pas Piatov. C'est un petit jeune.
Oui,
c'est ce qu'on vient de dire. Il est temps qu'il parte.
Ouais, exactement. C'est celui-là, ouais. Et en fait, on a vu un but exceptionnel. Sincèrement, je ne sais pas si
vous. Oui, je l'ai vu. Une action collective superbe.
Ah, pour le deuxième but du Real, oui. Qui est Tchouaméni, Benzema, Valverde, Rodrigo, et finition très très bonne de Vinicius. Quand ça joue à cette vitesse-là, c'est merveilleux. Ce qui fait que ça faisait 2-0, puis ils se sont un peu relâchés avant la mi-temps. Mais bon, voilà, c'était le Real, c'est 3 victoires, au bout de 3 matchs, c'était vraiment, voilà, c'était agréable à voir parce qu'ils se sont fait plaisir sur la pelouse. Mais vu la faiblesse de l'adversaire ce soir, c'était vraiment pas, on peut pas vraiment juger le Real.
Le Shakhtar faible contre le Real, et peut-être c'est le Celtic aussi faible face à Leipzig.
Je suis pas tout à fait d'accord. Déjà, il y a une très très mauvaise nouvelle, c'est évidemment la blessure de Goulachy. Apparemment, on s'oriente vers une rupture des ligaments croisés. Oh. Donc la saison, c'est quasiment fini. Blavich, son remplaçant, c'est pas terrible. Et en plus, durant la rencontre, alors déjà Fred avait dit à l'époque, lorsque le Celtic avait joué le Real, que c'était compliqué de jouer le Celtic, notamment en première mi-temps, et je peux t'assurer qu'ils ont une énergie extraordinaire qui fait qu'ils ont bouffé pendant une partie de la première mi-temps Leipzig. En plus, il y a des Japonais partout, donc en ce moment, moi, je flippe comme un fou parce que je vois les Japonais jouer partout. Je pense, je vise la Coupe du Monde, évidemment. La deuxième chose, c'est, si tu veux, c'est que la VAR, elle a encore fait des siennes. Il y a eu 2 buts refusés pour la FC qui sont un peu compliqués et ou tout du moins tendancieux, et heureusement il y avait 2 Français qui ont bien marché ce soir. C'est Nkunku qui encore une fois ouvre le score, 9e but en 13 matchs toutes compétitions confondues, et Simakan que j'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, qui nous a fait un excellent match sur son côté droit parce qu'il est décalé latéral droit. Par contre, alors oui, alors 3-1 évidemment ça fait du bien, mais de toute façon il fallait absolument l'emporter. Par contre, il y a un énorme travail pour Marco Rose, parce que tu as 3 égaux qui sont relativement importants devant. C'est l'animation entre Werner, Nkunku et Silva. Va vraiment falloir la travailler, parce que chacun veut y aller son petit but, et par contre si les uns arrivent à travailler pour les autres, je pense qu'on peut avoir une très très belle triplette d'attaque. Je passe évidemment sur Szoboszlai qui a une frappe de mule, mais ça on le savait.
Très bien. Conclure avec juste un mot du Barça. Hier, Daniel, on se disait, tiens, ils vont bien aller enquêter sur l'arbitre du match.
J'ai donné des billes à Fredo, moi, pour nous sortir une histoire.
Il y a eu des petites choses, mais c'est pas.
Eh bien, la presse catalane a mené l'enquête. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils disent, c'était prémédité, parce que sinon, c'est impossible à expliquer, disent-ils. D'ailleurs, cet homme-là était déjà en charge de la VAR lors du match de Munich. Il avait également porté préjudice au Barça.
Voilà, lors de la précédente journée. Je l'avais pas dit.
Ils disent que cet arbitre est un arbitre suspect.
Voilà.
Oui, ouais. Parce qu'il y a aussi une histoire. Il était pris dans une histoire un peu bizarre un soir.
C'est quoi l'histoire bizarre? Vas-y, vas-y. Faut dire les choses, Fredo.
C'est toi qui m'as envoyé. Bah, il était avec des dames et il y avait. Voilà, enfin.
Mm-hmm. Avec des dames qui monnaient.
C'est pas interdit d'être avec des dames.
C'est pas interdit des dames qui monnaient.
C'est-à-dire qu'il y a eu une descente de police.
Le sentiment.
Dans un endroit où il était.
Bon.
Pas au bon moment, au bon endroit, quoi.
Petite actu espagnole encore, vous dire que les choses s'arrangent pour Griezmann, selon la presse espagnole, Fred. Il y aurait eu un accord, là, entre l'Atlético et le Barça.
En fait, c'est 40 millions, hein, parce que je vous rappelle que Griezmann est toujours prêté.
Oui, alors là, on dit que maintenant, c'est passé à 20 millions.
Voilà. C'était 40 millions, ce serait passé à 20 millions.
Et Griezmann aurait accepté une baisse de salaire.
Ah, ouais, il part de haut, hein.
Il part de haut, peut-être.
Et vraiment, Xabi Alonso quand même à Leverkusen.
Ah oui, très bon choix, Xabi Alonso. Ah
ben, ça, on va voir. Il a fait la troisième et la seconde division espagnole. Il va passer en Ligue des Champions d'un seul coup. Évidemment, médiatiquement, c'est génial de recevoir Xabi Alonso, ancien joueur du Real évidemment et du Bayern Munich en tant que joueur. Mais là, il va être coach de Leverkusen en remplaçant de Seoane. On va voir ce qu'il va faire. En tout cas, médiatiquement, je pense que c'est un excellent coup pour le club de Benoulfir.
Il a fait un très très bon travail en tant qu'entraîneur de la réserve de l'équipe B de la Real Sociedad.
Merci les gars, merci beaucoup.
Ciao.
Bonne soirée. Juste une minute, deux, trois infos. Vous dire que Jonathan Clauss a 10 jours de repos, blessure aux ischio. Donc a priori, bon, il sera absent.
C'est pas le mollet?
Non, c'est les ischio finalement. Hier soir, on nous a dit mollet, mais c'est les ischio. Donc il sera absent à Lisbonne au match de la semaine prochaine. Mais pas de Coupe du Monde remise en question pour Jonathan Clauss à ce stade. Sinon, vous donnez deux, trois infos liées, vous savez, on suit l'affaire des écrans géants. Les villes de Nice et Cannes ont dit, nous on est prêts à le faire, mais on verra si l'équipe de France va loin. Sinon, bon, on peut
un
pas
peu plus de tour, pragmatisme. Quoi.
Voilà, exactement. Et puis la Confédération syndicale internationale aujourd'hui est allée à contre-courant en disant nous on n'appelle pas au boycott. Pourquoi ? Bah parce qu'on estime que le tournoi à la Coupe du Monde a fait faire des progrès incroyables aux droits des travailleurs migrants au Qatar. Ah. C'est la Confédération syndicale internationale, hein. Donc c'est une sorte de tutelle de nos syndicats. Donc voilà un point de vue qui détonne dans l'ensemble des réactions qataries du moment. Voilà, c'est fini pour ce soir. Demain, nouvelle.
Le festival des Tartuffes.
Demain, nouvelle soirée de Coupe d'Europe avec quatre clubs français, messieurs, dames. Avons-nous un jeudi rose? On l'espère, ce sera tout à l'heure, parce que les minutes trans, ce sera tout à l'heure à partir de 20h. Bonne nuit à tous.
Ciao.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.